Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a donc le plaisir de recevoir Chantal Delsol de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour Chantal Delsol. Chantal Delsol, vous avez été élue le 18 juin 2007 dans la section philosophie de l'Académie des sciences morales et politiques au fauteuil numéro 1. Après une thèse de lettres en philosophie politique sur l'Antiquité, soutenue en 82, vous êtes devenue maître de conférence à l'Université Paris 12. Et depuis 1993, vous êtes professeur à l'Université de Marne-la-Vallée, où d'ailleurs vous avez créé et dirigé un centre d'études européennes spécialisé dans les relations Est-Ouest. Vos recherches, Chantal Delsol, sont au carrefour de la philosophie juridico-politique, des sciences politiques, de la géopolitique et de la sociologie des mentalités. Parmi tous les ouvrages que vous avez fait paraître, des romans et des essais. Je citerai 4 chez Gallimard, en folio, L'irrévérence aux éditions de la Table Ronde, ou encore La République, une question française aux presses universitaires de France, Justice internationale, l'imposture aux éditions de la Table Ronde en 2004 et Matin Rouge aux presses de la Renaissance en 2005. Et aujourd'hui, devant les micros de Canal Académie, Chantal Delsol, vous allez nous présenter un ouvrage collectif à la réalisation duquel vous avez œuvré. Vous allez nous raconter pourquoi, comment. Il s'agit de l'ouvrage intitulé Simone Veil, qui est paru aux éditions du CERF tout récemment dans la collection des cahiers d'histoire de la philosophie. Vous écrivez dans cet ouvrage « 2009 marque le centenaire de la naissance de Simone Veil ». Il nous a paru important de nous saisir de l'occasion pour honorer dans cette collection une pensée inoubliable. Ce sont vos termes, vos mots. Donc, en votre qualité de philosophe, quel champ recouvrez-vous en utilisant les mots « une pensée inoubliable » pour évoquer Simone Veil ?
Oui, je voudrais d'abord rendre hommage au directeur de la collection, Maxence Caron, qui, je trouve, fait une belle œuvre ici. Parce que ces cahiers de philosophie sont très remarquables. Il y a déjà un certain nombre de livres qui sont parus. Il y en a beaucoup d'autres en préparation. Donc c'est dans ce cadre-là que, comme il me demandait un travail, j'ai proposé le Simone Veil. Et je trouve que cette collection est vraiment très belle. Je pense qu'elle peut être utile aux étudiants, à un public cultivé. Alors, en ce qui concerne la pensée inoubliable, je pense que la vision de Simone Veil est tout à fait originale. Le personnage est original aussi. Et en plus, c'est un personnage qui est pris dans une tourmente parce que sa vie se déroule dans un moment crucial de l'Europe. Et elle saisit ces événements à bras-le-corps pour philosopher autour de ces événements et sur ces événements. Et véritablement, elle a une pensée qui marque parce que, bien sûr, il y a des influences, et, comme toujours, mais elle a véritablement une pensée à elle. Qui se situe aux abords de, non seulement de la philosophie, mais aussi de la mystique, de la pensée sociale, un certain nombre de domaines. Et c'est puissant. C'est puissant en même temps, et le style est magnifique.
Chantal Delsol, vous insistez bien sur le fait une vie brève qu'elle a vécue en écrivant sans cesse.
Et c'est incroyable tout ce qu'elle a écrit. Elle est morte à 34 ans. Moi, ce que je trouve le plus impressionnant, mais on compare toujours avec ce qu'on a vécu soi-même, je trouve qu'elle est d'une maturité absolument incroyable. Elle écrit très jeune des choses que peut-être quelqu'un de 40 ou 50 ans pourrait écrire, mais c'est impressionnant d'abord du point de vue de la maturité. Et puis alors, il y a une œuvre immense qui a été produite en finalement très peu de temps et qui n'a pas été sur le moment véritablement construite. Elle disait toujours qu'elle se penchait sur une œuvre, sur un livre, qu'elle ne terminait finalement jamais, mais elle écrivait énormément. Et ce sont tous ces morceaux, entre guillemets, c'est pas péjoratif bien sûr, qui ont été ramassés patiemment, d'abord par ses parents, ensuite par des amis ou des commentateurs, et qui ensuite ont été ramassés en un certain nombre d'œuvres. Mais le nombre de textes qu'elle a écrits est absolument extraordinaire pour cette période. ou pendant laquelle, d'ailleurs, elle a fait d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle a quand même, elle a travaillé, même si sa santé précaire ne lui permettait pas de travailler en permanence. Mais elle a quand même été assez active, elle a fait du militantisme, elle a participé à un certain nombre d'actions, d'organisations. Mais c'est fou tout ce qu'elle a écrit.
Et vous indiquez, elle n'a pas laissé de système. C'est quelque chose d'important, d'intéressant, un électron libre qui n'a pas laissé de système.
Qui n'a pas cherché à construire une pensée autour d'un axe qu'elle aurait, pour ainsi dire, prémédité. Elle a pensé, j'allais dire, au jour le jour. Son axe était intérieur, bien sûr, il y avait un axe, mais il était intérieur, il était bien sûr conscient, mais elle n'a pas cherché à construire autour de ça. Elle a écrit, c'est pas au fil de la plume, c'est pas ça, mais selon sa conscience, selon aussi les circonstances.
Et ça, c'est rare au niveau de la philosophie.
Disons qu'un philosophe puissant essaye souvent de construire un système. Là, en l'occurrence...
C'est la brièveté de son existence, vous pensez, qu'il ne lui a pas laissé le temps
je ne sais
ou
pas,
ça ne faisait pas partie de ses préoccupations?
Non, ça ne faisait pas partie de ses préoccupations. Je pense que si elle a vécu plus longtemps, il est probable qu'elle n'aurait pas non plus cherché à construire un système. Elle aurait essayé d'agir. Et ce qu'elle voulait, c'était agir, finalement. À la fin de sa vie, ce qu'elle voulait, c'était faire la guerre. Enfin, faire la guerre comme infirmière de première ligne. Mais je pense que ce n'est pas une pensée systématique et c'est ça qui est intéressant. Ça signifie que ça n'est pas exempt de certaines contradictions, mais c'est justement c'est ça qui enrichit la pensée.
Vous utilisez une belle expression dans cette introduction. Elle a laissé un profond sillon entre philosophie et mystique.
Oui, parce qu'il y a une philosophe, Simone Veil, bon, c'est ça l'essentiel. Et puis il y a aussi une mystique, alors qui parfois peut être... remise en cause par certains qui disent c'est pas vraiment de la mystique. Enfin bon, je ne suis pas spécialisée
dans ces domaines-là. Dans la haute
mais
mysticité.
Mais il est vrai qu'il y a une recherche quand même d'approche de Dieu. C'est ça la mystique. Les pages de Simone Veil sur l'attente de Dieu, par exemple, sont tout à fait exceptionnelles.
Oui, vous prononcez ces mots de canonisation, de dévotion, les dévots qui lui vouent une sorte de culte.
Oui, là,
bon, parce que là, ce sont des marges.
Il y a un petit peu d'agacement de ma part parfois parce que j'ai.
Par rapport à cette récupération
voilà,
peut-être entreprise.
J'ai été amenée pendant un an à beaucoup travailler sur ces textes, forcément. Même si je n'ai pas écrit moi-même, ce n'est pas une introduction en fait, que j'ai écrite, c'est juste une petite...
Une intention.
La véritable introduction a été faite par Emmanuel Gabellieri et j'y tenais beaucoup parce que je considère qu'en France, il y a deux véritables spécialistes de Simone Veil. C'est Emmanuel Gabellieri et Miklos Wetteux. Et donc, c'est Emmanuel Gabellieri qui a fait la préface. Mais donc, j'ai quand même été amenée à relire beaucoup ces textes et puis des textes de commentateurs. Et j'étais un petit peu agacée par le nombre d'hagiographes qui tournent autour de Simone Veil. Je pense qu'on peut essayer de prendre davantage de distance par rapport à elle.
Alors, vous en parliez il y a un instant, un esprit harcelé par les événements de son temps et cette volonté d'aller vers l'action.
Oui.
Parallèle à sa pensée et son développement de pensée.
Il y a une volonté d'agir qui est absolument incroyable, en plus pour une intellectuelle de sa classe, parce que finalement, cette fille était faite pour penser. Et en même temps, cette volonté d'action est presque pathétique parce que elle était si peu faite pour agir. Elle était d'une constitution extrêmement fragile.
Une maladresse aussi par moment.
Oui, voilà, des maux de tête épouvantables, une sorte de maladresse de tout. Une jeune femme qui était pas du tout.
C'est du temps perdu pour vous ?
Oh non, je ne dis pas ça, mais je dis que c'est à la fois émouvant et presque un peu pathétique parce que finalement, quand elle agit, ça ne fonctionne pas vraiment. On a le sentiment que les gens qui la font agir la laissent faire parce qu'elle est tellement merveilleuse comme personne. On la laisse faire, mais finalement ça ne marche pas vraiment. Et tout à fait à la fin, quand elle se trouve à Londres, elle supplie pour qu'on la laisse partir. Et tout le monde lui dit : mais attendez, si on vous parachute en première ligne, mais non seulement il va vous arriver des ennuis, mais vous allez créer des ennuis à tous les gens qui sont autour de vous. Et elle, ça la fâche profondément. Elle est meurtrie, elle est humiliée par cela. Et je pense qu'elle n'est pas faite du tout, ni pour travailler dans les vignes chez Gustave Thibon. Où d'ailleurs elle va travailler très peu finalement, ni pour travailler à l'usine où ça l'épuise trop, elle n'a pas une constitution pour ça, ni pour aller en infirmière de première ligne, mais elle voudrait absolument, parce qu'elle voudrait toujours que la pensée et la vie coïncident.
Est-ce que justement ce personnage follement attachant n'a pas justement caché l'intérêt de l'œuvre des écrits de Simone Veil ? Est-ce que cette personnalité qui se voulait d'être sur tous les fronts de son époque n'a pas fait en sorte que l'on s'attache davantage à la personne qu'à ses écrits, à sa pensée ?
Non, je ne crois pas. Enfin, disons, peut-être qu'à l'époque, ça, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je pense qu'à l'époque, la personnalité de Simone Veil était tellement assez charismatique pour finir, même si parfois elle pouvait se révéler assez désagréable, enfin assez dure, même un peu violente, mais très attachante, très charismatique. Et peut-être que, étant donné qu'elle ne publiait pas de livres, finalement, elle écrivait des articles, mais finalement, ses œuvres étaient plus ou moins caché encore. Alors c'est probablement sa personnalité qui prenait le devant. Après, une fois que ses œuvres ont été connues, je pense que les deux sont mélangés. Et l'attachement qu'elle a pu provoquer derrière elle est lié à la fois aux œuvres et à la personne.
Alors d'où l'intérêt de la publication de cet ouvrage sous votre direction, Chantal Delsol. Alors, donc on parle d'ouvrage collectif placé sous votre direction. À quels auteurs, en dehors du préfacier, avez-vous souhaité faire appel? Et puis, quelle a été votre méthode d'ordonnancement des choses? Quelle méthode avez-vous souhaité suivre?
Écoutez, il y a plusieurs strates. D'abord, les philosophes français. Je vous ai cité tout à l'heure deux philosophes français, mais il y a aussi Bertrand Sassernin, qui est un très bon spécialiste de Simone Veil.
Académicien.
Académicien, oui. Et puis, il y a les philosophes français qui sont les responsables, les directeurs, les dirigeants des cahiers Simone Veil, qui sont une très, très belle œuvre, qui fonctionne bien, avec énormément de textes passionnants. Donc là, j'en profite pour remercier Robert Chenavier, André Deveau, des gens qui ont été très importants pour la diffusion de l'œuvre de Simone Veil en France et qui m'ont fait l'amitié de bien vouloir écrire dans ce livre. Et je pense que s'ils n'avaient pas été là tous les deux, ça aurait été vraiment très, très dommage avec quelques autres. Il y a effectivement d'autres Français, je ne vais pas citer tout le monde, mais quelqu'un comme Francis Jacques qui était tout à fait intéressant là-dessus. Et puis, il y a pas mal d'Italiens qui, je ne sais pas exactement pourquoi, des spécialistes de Simone Veil pourraient dire pourquoi cette pensée s'est diffusée davantage en Italie, mais en tout cas, j'ai essayé d'aller chercher quand même des Italiens qui sont spécialisés dans cette pensée, et puis j'ai essayé d'aller un peu plus loin, donc un Américain.
Oui, c'est une distribution internationale.
C'est international parce qu'il faut quand même essayer de voir l'œuvre sous plusieurs angles. Et puis, il fallait essayer d'aller, j'allais dire, traquer un certain nombre d'aspects de l'œuvre, le plus d'aspects possible, parce qu'il y a beaucoup d'aspects très différents. Elle a aussi fait de la poésie. D'abord, elle s'est passionnée pour la poésie, a commencé par Homère. Et puis, elle a même écrit des poèmes auxquels, d'ailleurs, elle tenait beaucoup. Je me demande même si elle ne tenait pas à ses poèmes plus qu'à
ses écrits philosophiques.
Ses écrits philosophiques. Enfin, elle aimait beaucoup ses poèmes. Elle aimait beaucoup écrire de la poésie. Elle a écrit des belles choses, d'ailleurs.
Et dans l'ordonnancement, alors, de cet ouvrage, vous avez choisi de commencer par la philosophie, la morale ensuite, la politique et l'histoire, le religieux et le mystique.
Oui, c'est discutable. Je sais que...
Non, mais c'était un choix.
Oui, c'était un choix. On en a discuté avec Emmanuel Gabellieri, qui était peut-être pas... on n'était pas d'accord pour tout. Bon, c'était un peu compliqué. J'ai commencé par la philosophie parce que ça me paraissait essentiel de commencer par le domaine qui était vraiment le sien. Et puis, en avançant petit à petit vers la mystique, finalement. Et puis, en terminant par un certain nombre de textes qui sont non pas marginaux, parce que c'est péjoratif, mais qui sont importants pour comprendre... disons, des aspects plus spécifiques, comme par exemple la technique poétique, ou bien comment elle était comme professeure, parce qu'elle a été professeure de philosophie, forcément. Et puis même des textes qui sont un peu spécifiques de la personne, comme par exemple la question de l'anorexie, qui était aussi une question importante. Pour terminer sur le texte d'André Deveau, qui est quand même l'un des révélateurs de la pensée Simone Veil en France. Bon voilà, c'était assez difficile, vous savez, d'ordonner tous ces textes très très différents les uns des autres. Bon, ça reste bien sûr discutable.
Mais comme tout choix,
oui.
Qui passe par une subjectivité moment. Et en lisant cet ouvrage collectif, c'est une meilleure connaissance et du personnage de Simone Veil et de son œuvre que vous proposez.
Oui, c'est ça. En même temps, les deux sont liés. Il n'y a pas des chapitres sur la personne, des chapitres sur l'œuvre. Tout est mêlé parce que c'est indémêlable avec une personne de ce genre. L'œuvre est étroitement liée à personne, inversement. Le premier texte de Gabriella Fiori, qui est une très bonne connaisseuse de Simone Veil, est un texte qui parle à la fois de la personne et puis de sa pensée. Et dans l'ensemble, on retrouve en permanence la personne. Le caractère... Les révoltes, parce que c'était une personne très révoltée, Simone Veil, contre l'injustice du monde, contre le mal du monde.
différents thèmes, le baptême et la judéité, le christianisme, l'importance de la Grèce dans la vie, évidemment, de Simone Veil, avec le platonisme, etc. Toute cette, l'absolu, cette soif d'absolu par Francis Jacques.
Qui était vraiment, pour ainsi dire, voué à écrire un texte de ce genre. Ouais, ça lui allait très bien.
Vous parliez de son amour de la poésie, on le retrouve. L'anorexie mystique, l'insoumise, une philosophe de la non-soumission, le nécessaire et le bien, le désir du bien. Donc, des idées philosophiques et en même temps, des extraits d'œuvres alors de Simone Veil.
Dans certains textes, il y a des extraits assez nourris. Bon, ça, vous savez, ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui aiment bien citer vraiment des morceaux, j'allais dire. Et puis d'autres qui n'aiment pas. Alors, c'est par exemple chez Fernando Puentes, il y a un certain nombre de textes.
Alors, en tant qu'universitaire et académicienne, cette année 2009 peut faire surgir un intérêt nouveau par rapport à cette figure de la philosophie française.
Écoutez, ce qu'on espère toujours quand on fête comme ça un anniversaire, quand on commémore quelque chose, on espère toujours faire connaître l'auteur dont on parle. Aujourd'hui, je pense que ce qui peut être intéressant chez Simone Veil, notamment pour notre époque, pour le moment que nous vivons, c'est la question de l'enracinement et la déclaration des devoirs envers l'être humain. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai mis le texte de Gabriella Fiori tout à fait au début. Parce que bon, finalement, l'enracinement, c'est un texte qui a été écrit tout à fait à la fin, à Londres. Elle demandait à combattre, elle demandait à faire de la résistance. On l'a mise dans un bureau. On s'est rendu compte tout de suite qu'en fait, elle était... Ce qu'elle pouvait faire vraiment de très très bien, c'était d'écrire. Donc on lui a demandé de rédiger quelque chose, et elle a rédigé quelque chose qui était presque comme une espèce de constitution des droits et des devoirs de l'humanité pour la future Europe d'après-guerre. Et quelle chance nous aurions si ce texte pouvait être notre constitution européenne, vraiment. Parce que, à mon avis, c'est un texte qui serait infiniment supérieur à tout ce que nous avons. Alors, probablement est-il trop philosophique pour devenir une véritable constitution, mais enfin, si on pouvait s'en inspirer davantage. Donc, c'est un texte qui, je crois, n'est pas assez connu pour l'instant. Et j'espère que, naturellement, tous les autres textes sont intéressants, mais puisque vous me parlez de l'incidence aujourd'hui, je trouve que c'est ce texte-là qui, aujourd'hui, parlerait beaucoup à nos contemporains et pourrait leur donner des idées pour s'en sortir dans le désarroi où ils sont. Hein. La question de l'enracinement et la question des droits et des devoirs de l'humanité.
Avant de nous séparer, Chantal Delsol, nous proposons aux auditeurs de Canal Académie la lecture de quelques extraits justement relatifs à cette constitution dont vous nous parliez il y a un instant. Donc, des extraits des textes écrits par Gabriella Fiori. Comment la définir ? Elle qui fut inclassable dans sa vie privée aussi bien que dans sa vie publique. À son sujet, on est sans point de repère par rapport à un rôle, une couleur, une idée. En même temps, l'héritage le plus clair qu'elle laisse à chacun de nous, c'est l'engagement fidèle à notre propre vocation personnelle. Solitaire, elle fut tissée de vulnérabilité et de force, la force de la vie, la sève qui tourmente et à la fois nourrit le petit poirier en fleurs de Van Gogh. Ayant comme point de départ l'usage conscient de la volonté pour atteindre le vrai, elle voulut toucher le fond des choses, aller à l'essentiel, la seule chose qui peut la combler. Alors, philosophe, au sens propre d'amante de la sagesse, en même temps liée comme par osmose aux êtres humains, en particulier les plus démunis devant le malheur, de par sa sensibilité médiumnique, elle fut fondatrice de cités, selon Platon. Simone Veil est une femme génie. Elle est un génie moral dans le domaine éthique. Sa portée révolutionnaire est immense, car elle a trouvé la clé d'une sagesse qui s'applique à la vie quotidienne de chacun sur le plan individuel et sur le plan social. son génie contient tous les aspects féminins de la fécondité spirituelle. L'important, c'est de nourrir, de soigner, de protéger selon les exigences physiologiques des êtres, des événements, des choses. L'attention doit tendre à préserver, à remédier, à utiliser. La faiblesse doit primer sur la force. L'important, c'est la parole, le langage qui communique. L'important, c'est la participation et la chaleur à l'égard de la sensibilité dans les modes de la vie, du travail, de l'étude, de l'enseignement. Il faut mettre l'accent sur l'application pratique de la sagesse dans le but du plus grand bonheur possible de l'homme sur Terre. Comment imprimer l'empreinte de l'impersonnel à la collectivité pour qu'il en dérive le respect envers tout être humain, corps, esprit, âme ? C'est l'interrogation qui résonne dans l'enracinement. Simone répond ceci. Aimer d'une part tout indistinctement. D'autre part, le bien seul. Mystère. Elle écrit encore. Le vrai bien est au-dessus du conflit. Et pourtant, il prend parti. Mystère suprême. La méthode mystique est dans l'Évangile, qui exprime une conception de la vie humaine, non une théologie. Avec tout son être, Simone Veil a désiré nous en offrir une application qui puisse s'adapter à la vie individuelle et sociale de notre époque, dans un langage de communication universel. Elle affirme rassembler les gens derrière les aspirations chrétiennes et essayer de les définir par les termes auxquels un athée puisse intégralement adhérer. Et pour qu'un chrétien de profession parvienne à briser la cloison étanche non seulement entre les hommes, mais dans son âme. La définition des trois éléments de l'être de l'évangélisateur étant une forte expérience de Dieu, la volonté de partage, la foi en la transformation du monde par la charité. La présence de ces trois éléments chez Simone Veil me paraît d'une évidence éblouissante. Gabriella Fiori nous explique « Le déracinement a lieu quand les besoins de l'âme ne sont pas satisfaits. Parce qu'ils n'ont jamais été étudiés ni définis, le manque d'une telle étude force les gouvernements à s'agiter au hasard. Simone Veil, la première, va tenter de les définir pour en faire le fondement de son projet de constitution. Les besoins de l'âme répondent aux devoirs envers l'être humain. Aussi bien que les besoins reliés à la vie du corps, ils s'expriment ici-bas. S'ils ne sont pas satisfaits, l'homme tombe peu à peu dans un état plus ou moins analogue à la mort, plus ou moins proche d'une vie purement végétative. L'obligation fondamentale envers l'être humain est le respect, qui doit être effectivement exprimé d'une manière réelle et non fictive. En partant de la faim, qui est le besoin physique fondamental, et qui suscite l'obligation la plus évidente, Simone énumère les besoins physiques. Ils concernent la protection contre la violence, le logement, les vêtements, la chaleur, l'hygiène, les soins en cas de maladie, et ensuite les besoins moraux, plus difficiles à cerner. À la base de tous ces besoins, il y a le besoin d'ordre. Ils confluent tous dans un autre besoin essentiel, peut-être le plus important et le plus méconnu, le besoin de racines. Je m'arrêterai sur eux. L'âme humaine a besoin d'être enracinée dans plusieurs milieux naturels et de communiquer avec l'univers à travers eux. Et criminel, tout ce qui a pour effet de déraciner un être humain ou d'empêcher qu'il ne prenne racine. Les déracinements sont la somme des maladies morales de carence. La cause en est l'insatisfaction des besoins vitaux de l'être humain. Qu'est-ce qu'avoir des racines pour un être humain ? C'est participer de manière réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Sur cette notion de vérité, Gabriella Fiori nous explique page 99. La vérité qui nous mord le cœur chaque fois que nous sommes sensibles à la beauté du monde. La vérité qui éclate avec d'incomparables accents d'allégresse dans les parties belles et pures de l'Ancien Testament, chez les pythagoriciens, chez Lao Tzu, dans les textes sacrés de l'hindouisme, dans des mythes et contes innombrables. La force qui est souveraine ici-bas est souverainement dominée par la pensée. L'homme est une créature pensante. Il est du côté de ce qui commande à la force. Il n'est certainement pas seigneur et maître de la nature, et se croyant tel, il se trompe. Il est le fils de celui qui commande à la nature. Il est l'enfant de la maison, la science le prouve. Quand il reste sur les genoux de son père et s'identifie à lui par l'amour, il a part à l'autorité. L'identification la plus complète par l'amour a lieu dans la sainteté qui réalise la perfection proposée par l'Évangile, où nous trouvons une physique surnaturelle de l'âme humaine. La grâce descend de Dieu dans tous les êtres, mais ses fruits dépendent de ce qu'ils sont et leur maturation se déroule par étapes, le long d'une durée, de manière analogue à un mécanisme. L'itinéraire de Simone Veil est la profonde intériorisation sans frontières de toutes les aspirations à la justice, à la vérité, à la beauté, en un mot au bien, qui sont présentes dans toutes les religions et en particulier focalisées dans le christianisme. Simone Veil fut attirée par le christianisme justement parce qu'elle le ressentait comme la plus universelle des religions et qu'il pouvait, en un certain sens, les contenir toutes en son sein, à condition qu'il soit compris et qu'il se comprenne lui-même dans un sens large et profond. Quatre obstacles surtout nous séparent d'une forme de civilisation susceptible de valoir quelque chose. Notre conception fausse de la grandeur, la dégradation du sentiment de la justice, l'idolâtrie de l'argent et l'absence en nous d'inspiration religieuse. La tare la plus grave, notre conception de la grandeur. C'est celle même qui a inspiré toute la vie d'Hitler, lequel l'a désiré de tout son désespoir de déraciner et a eu le courage de la réaliser. Nous bornant à nous incliner bassement devant elle, nous continuons à nous en nourrir dans l'histoire et à la transmettre dans l'enseignement. Nous la condamnons avec scandale chez les ennemis et nous nous en abstenons lâchement dans l'action. Nous sommes soumis à la force qui seule nous contraint à admirer dans le passé Napoléon, César, Alexandre. L'histoire ne fait que subordonner la pensée au seul genre de documents qui, de par la nature des choses, peuvent rester les témoignages des vainqueurs. Les vaincus disparaissent, ils sont néants. Il serait simple de faire avec soi-même le pacte d'admirer seulement les actions et les vies au travers desquelles rayonne l'esprit de vérité, de justice et d'amour. Un tel esprit est éternel. Le mal est la distance qui sépare de lui les actions et les pensées. Le bien est également méprisé dans l'enseignement des lettres et des arts. Il est une vérité passée à l'état de lieu commun parmi les enfants et les hommes. Le talent n'a rien à voir avec la moralité. Et l'on ne propose à leur admiration que le talent dont les manifestations exhibent avec impudence le manque de ces vertus qu'on leur recommande de pratiquer. D'où la persuasion que la vertu est le propre de la médiocrité et devient un mot ridicule, tout comme les mots honnêteté et bonté. Gabriella Fiori écrit également page 98 de cet ouvrage paru aux éditions du Cerf, les cahiers d'histoire et de la philosophie consacrés à Simone Veil, un livre donc placé sous la direction de Chantal Delsol. Nous souffrons réellement de la maladie d'idolâtrie. Elle est si profonde qu'elle ôte aux chrétiens la faculté de témoignage pour la vérité. Quel est l'objet d'étude de la science? Les faits en tant que tels. Les rapports mathématiques sont considérés comme des faits de l'esprit. Là, il n'y a rien que la pensée humaine puisse aimer, tandis qu'à la base de la connaissance, il faut l'amour. Désirer la vérité, c'est désirer un contact direct avec de la réalité. Désirer un contact réel avec une réalité, c'est l'aimer. Et l'amour réel et pur est par lui-même esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit. Dans l'Antiquité, il exprimait la notion qu'aujourd'hui la science définit comme énergie. L'amour pur est cette force active. L'esprit de vérité est aujourd'hui presque absent de la religion et de la science et de toute pensée. Comment le faire redescendre parmi nous ? D'abord, en réconciliant la science et la religion. La condition, c'est que le mobile du savant soit l'amour pour l'objet de son étude, l'univers où nous vivons. Pourquoi et comment l'aimer ? En ayant le cœur pris par sa beauté. Le savant a pour fin l'union de son propre esprit avec la sagesse mystérieuse éternellement inscrite dans l'univers. Dès lors, comment voir opposition ou même séparation entre l'esprit de la science et celui de la religion ? L'investigation scientifique n'est qu'une forme de la contemplation religieuse. Il en allait ainsi en Grèce. Les Romains tuèrent Archimède et ensuite la Grèce. Canal Academy vous invite maintenant à découvrir ou mieux connaître les faits marquants de la vie et l'ensemble de l'œuvre de la célèbre philosophe française Simone Veil. Simone Veil est née dans une famille d'origine juive non pratiquante. C'est une enfant de santé fragile. Elle a un frère de 3 ans son aîné, André, futur cofondateur du groupe de mathématiciens Bourbaki. En 1919, à 10 ans, Simone Veil entre au lycée Fénelon. De santé toujours très incertaine, elle ne retourne au lycée qu'épisodiquement. Elle prend des leçons de piano avec Germaine Taillefer. Elle lit les pensées de Pascal. En 1923, elle entre en classe de première à Fénelon. Elle s'y passionne pour Platon à travers le Phédon et le Criton. Elle s'inscrit en classe de philosophie au lycée Victor Duruy pour être l'élève de René Le Sen, philosophe spiritualiste et disciple d'Octave Hamelin. Elle obtient au mois de juin 1925 le baccalauréat de philosophie. Simone Veil a 16 ans. En 1925, elle entre dans la classe du philosophe Alain, en Cagne, au lycée Henri IV. Elle y restera 3 années. L'influence d'Alain, qui la surnomme la Martienne, sera décisive sur Simone Veil. C'est une lectrice assidue de Platon, Descartes, Spinoza, Kant. Elle se lie d'amitié avec Simone Pétremant. Une autre Simone, Simone de Beauvoir, qui était d'un an son aînée, croise le chemin de Simone Veil en 1926 dans la cour de la Sorbonne. Simone Veil est accompagnée d'une bande d'anciens élèves d'Alain. Elle a dans sa poche de vareuse un numéro des Libres Propos et l'Humanité. Et Simone de Beauvoir témoigne déjà de la petite notoriété dont l'autre Simone, Simone Veil, bénéficiait déjà. Simone de Beauvoir écrit « Elle m'intriguait, à cause de sa réputation d'intelligence et de son accoutrement bizarre. Une grande famine venait de dévaster la Chine et l'on m'avait raconté qu'en apprenant cette nouvelle, Simone Veil avait sangloté. Ses larmes forcèrent mon respect, plus encore que ses dons philosophiques. » C'est la formation du groupe d'éducation sociale. Simone, son frère et ses amis y donneront des cours destinés au peuple, à l'école municipale de la rue Falguière, jusqu'en 1931. En 1928, suivant le modèle de son frère, brillant mathématicien, elle entre à l'école normale supérieure, parmi ses camarades de promotion Jean Beaufray, Thierry Molnier, Maurice Bardèche, Robert Brasillac et Claude Jamet. 1929, elle adhère et fait adhérer ses parents à la Ligue des droits de l'homme. Elle donne des cours bénévoles à des cheminots. Simone Veil commence en 1930 à souffrir de violents maux de tête. Elle soutient son diplôme d'études supérieures, sciences et perceptions chez Descartes. Elle est reçue en 1931 à l'agrégation de philosophie. Et là, elle commence une carrière d'enseignante dans divers lycées, au Puy, à Roanne, à Saint-Étienne, où elle se rapproche de la classe ouvrière. Elle entre en contact avec les milieux syndicalistes révolutionnaires et participe activement à la vie du mouvement ouvrier de la Haute-Loire et de la Loire. Au Puy, solidaire des syndicats ouvriers, elle se joint au mouvement de la grève de l'hiver 1931-32 contre le chômage, contre les baisses de salaire, ce qui provoque un scandale. Syndicaliste de l'enseignement, elle est favorable à l'unification syndicale et écrit dans les revues L'école émancipée et La révolution prolétarienne. Communiste antistalinienne, elle participe à partir de 1932 au cercle communiste et démocratique de Boris Souvarine, qu'elle a connu par l'intermédiaire de Nicolas Lazarevitch. Elle passe quelques semaines en Allemagne au cours de l'été 1932 dans le but de comprendre les raisons de la montée en puissance du fascisme. À son retour d'Allemagne, nommée professeure au lycée d'Auxerre, elle s'exprime avec beaucoup de lucidité dans divers articles, en particulier dans La révolution prolétarienne, sur la situation politique allemande et sur ce qui risquait de survenir à la veille de la prise du pouvoir par les nazis. En vacances en Espagne en 1933, elle prend contact avec des militants de la Fédération communiste ibérique, dissidents du Parti communiste espagnol. Elle écrit un article dans La révolution prolétarienne sur l'échec de la révolution russe et sur la défaite du mouvement ouvrier allemand. Elle collabore à la Critique sociale, revue du cercle communiste et démocratique dirigée par Boris Souvarine. Elle rencontre et héberge à Paris Trotsky. En 1934, elle traduit un texte de Machiavel sur le soulèvement des Ciompi, ouvriers de la laine, à Florence. Abandonnant provisoirement sa carrière d'enseignante de 1934 à 1935, elle est ouvrière, sur presse, chez Alstom. Puis elle travaille à la chaîne, aux établissements Carnot et Forges de Basse-Indre, à Boulogne-Billancourt, et chez Renault, jusqu'au mois d'août 1935. Elle notera ses impressions dans son journal d'usine. Elle écrit son grand œuvre, son testament, qu'elle ne publiera jamais, Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, où elle confronte sa conception du marxisme avec la réalité du travail qu'elle expérimente ensuite comme manœuvre dans les usines donc d'Alstom à Paris. Elle échangera des lettres avec Alain à propos de ses réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Sa mauvaise santé l'empêche de poursuivre le travail en usine. Simone Veil souffre donc en particulier de ces terribles maux de tête qui vont la poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Elle reprend l'enseignement de la philosophie, donne une grande partie de ses revenus à des personnes dans le besoin. Elle prend part aux grèves de 1936. Elle entreprend une correspondance avec Victor Bernard sur la vie ouvrière en usine, sur la vie ouvrière en usine. Elle écrit « La vie et la grève des ouvriers métallos » sous le pseudonyme de Simone Gallois. Elle écrit aussi « à Auguste de Teuf, sur la signification des grèves ouvrières, assiste à une projection des temps modernes de Charlie Chaplin. Elle milite avec passion pour un pacifisme intransigeant entre États. En 1937, elle collabore au Nouveau Cahier, une revue économique et politique défendant une collaboration économique franco-allemande. En 1936, Simone Veil va vivre une expérience de travail agricole dans le Cher, mais sa santé est de plus en plus précaire. Toujours en quête d'absolu, Simone Veil rejoint le Front républicain espagnol. Elle s'engage dans les rangs des anarcho-syndicalistes de la colonne d'Urruti lors de la guerre civile espagnole pour combattre le coup d'État de Franco. Bien que républicaine, elle s'interposera alors pour éviter qu'un prêtre franquiste soit injustement fusillé. Gravement brûlée, après avoir posé le pied dans une marmite d'huile bouillante posée à ras le sol, elle doit repartir assez rapidement pour la France. Elle obtient un congé maladie d'un an. Elle écrira des textes divers, dont deux lettres, lettre ouverte à un syndiqué et lettre ouverte aux Indochinois, qui abordent la question coloniale en Extrême-Orient. Elle rédige aussi en 1937 « Ne recommençons pas la guerre de Troie » dans les Nouveaux Cahiers. Elle se déplace en Italie et vit un contact avec le catholicisme. Elle compose un poème, Prométhée, écrit la condition ouvrière qui sera publiée dans l'ouvrage éponyme. Elle est nommée au lycée de Saint-Quentin, dans l'Aisne. 38, nouveau congé de maladie, qui sera d'ailleurs reconduit d'année en année jusqu'à sa mort. Elle passe la semaine de Pâques à Solesmes. Elle connaît là sa première révélation mystique dans cette abbaye, à Solesmes. Dès lors, elle veut comprendre la volonté de Dieu et l'articuler intellectuellement avec ses propres expériences religieuses. Elle donne dans « Pensées sans ordre concernant l'amour de Dieu » une interprétation mystique de la religion chrétienne. Elle est nommée professeure de philosophie à Bourges. Elle écrit à Georges Bernanos après la lecture des grands cimetières sous la lune. Elle assiste au congrès du groupe Bourbaki à Dieulefit dans la Drôme. Elle vit sa première expérience mystique. Elle est visitée par le Christ alors qu'elle récite le poème « Love » de George Herbert. Simone Veil se rapproche peu à peu du christianisme. Elle éprouve la présence du Christ à partir de l'année 38 et entre en contact avec des prêtres, des religieux, afin de leur poser des questions sur la force de l'Église catholique. Le père Joseph-Marie Perrin, religieux dominicain, l'accompagnera lorsqu'elle sera à Marseille entre 40 et 42. Mais Simone Veil restera très discrète sur son évolution spirituelle. Ce n'est qu'après sa mort que ses ennemis découvriront toute la profondeur inouïe de sa vie spirituelle. En 39, elle rédige « Réflexion en vue d'un bilan » qui signe son abandon du pacifisme. Elle écrit « Réflexion sur les origines de l'hitlérisme » et l'Iliade ou le poème de la force. Elle lit, un an plus tard, la Bhagavad Gita, dont l'esprit lui semble très proche de l'esprit chrétien. Son frère, André Veil, est inculpé d'insoumission et incarcéré à la prison du Havre. Une riche correspondance, en particulier sur les mathématiques, va s'établir entre le frère et la sœur. André embarque pour les États-Unis. Simone rédige un projet de formation d'infirmière de première ligne, un projet qu'elle remaniera plusieurs fois. Lucide sur ce qui se passe en Europe, Simone est sans illusion sur ce qui menace sa famille juive dès le début de la guerre. Lorsque Paris est déclarée ville ouverte le 13 juin 1940, elle et sa famille se réfugient à Marseille, via Nevers. Elle prend contact avec les Cahiers du Sud de Jean Ballard. Elle écrit une lettre au ministère de l'Instruction publique pour protester contre le statut des Juifs. C'est à cette époque qu'elle commence la rédaction de ses cahiers. Les études qu'elle rédige sur la Grèce, sur la philosophie grecque, en particulier sur Platon, seront rassemblées, après la guerre, dans deux volumes, la source grecque et les intuitions pré-chrétiennes. Elle travaille également sur la physique contemporaine, écrit sur la théorie des quantas, et entre en contact avec les Cahiers du Sud, la revue littéraire la plus importante de la France libre, et participe à la résistance en distribuant les cahiers du témoignage chrétien, réseau de résistance organisé par les jésuites de Lyon. En 1941, elle étudie le sanskrit avec René Daumal, qui lui fait rencontrer Lanza del Vasto. Elle fréquente la Société d'études philosophiques de Marseille, animée par Gaston Berger. Elle écrit pour lui un essai sur la notion de lecture. Elle rencontre le père Perrin, dominicain, qui lui fait connaître Gustave Thibon, qui est un écrivain catholique qui exploite une ferme en Ardèche. Elle exprime sa volonté d'y travailler. Elle sera engagée comme ouvrière agricole. Elle fait la lecture du Tao Tong King et des Upanishads, vif intérêt pour le folklore de la part de Simone. Elle apprend et récite le pater en grec. Elle écrit à Xavier Vallat, commissaire aux questions juives, sur le statut des juifs. Grande fécondité intellectuelle à cette époque, nombreux articles dans les Cahiers du Sud, le génie d'Oc et l'homme méditerranéen, l'avenir de la science, réflexions à propos de la théorie des quantas, deux poèmes, la mer et les astres. Des lettres sont écrites au père Perrin, réunies dans « Attente de Dieu ». Elle rencontre Joé Bousquet à Carcassonne. Longue conversation avec Don Clément Jacob à l'abbaye bénédictine d'Ancalca, dans le Tarn. Retour à Marseille, nombreux textes. Réflexions sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu. Forme de l'amour implicite de Dieu. Les trois fils de Noé, l'amour de Dieu. Et lettres d'adieu à Joé Bousquet et au père Perrin. En 1942, Simone Veil emmène ses parents en sécurité aux États-Unis, départ pour l'Amérique via Oran et une longue escale à Casablanca. Elle y rédige des intuitions pré-chrétiennes. Elle écrit la plus grande partie des cahiers d'Amérique, connaissances surnaturelles. Trois lettres importantes au père couturier, lettre à un religieux, à son frère, lui recommandant ses parents, et à Jean Val, pour lever tout équivoque concernant son attitude à l'égard de Vichy. Mais refusant un statut qu'elle ressent comme trop confortable en ces temps de tempête et d'horreur, elle fait tout pour se rendre en Grande-Bretagne. Elle refuse de quitter ses compatriotes et revient aider les forces françaises libres en Angleterre. Embarquement pour l'Angleterre en novembre, où elle est affectée à Londres comme rédactrice au commissariat à l'action sur la France. Intense production intellectuelle, écrit de Londres et de l'enracinement. Mais son intransigeance dérange. Soucieuse de partager les conditions de vie de la France occupée, malgré sa santé de plus en plus défaillante, elle remonte son projet. sa formation d'infirmière de première ligne. Mais son projet n'aboutit pas. On le juge fou, ébranlé, fortement déçu par le refus de l'entourage de Charles de Gaulle, Schumann, Cavaillès, André Philippe, qui ne la laisse pas rejoindre les réseaux de résistance sur le front français. En effet, d'après eux, elle aurait été probablement rapidement capturée par la police allemande, identifiée comme juive et donc probablement déportée. Elle démissionne de l'organisation du général de Gaulle en juillet 1943. En 1943, elle entre à l'hôpital Middlesex. Une tuberculose est diagnostiquée. Elle est transportée au sanatorium d'Ashford, dans le Kent. Elle refuse de se nourrir, de se soigner. Elle meurt d'un arrêt cardiaque au sanatorium d'Ashford, le 24 août 1943, à l'âge de 34 ans. Son inhumation a lieu au New Cemetery d'Ashford, dans la section réservée aux catholiques. Selon le coroner, la mort de Simone Veil serait en fait un suicide. Celle-ci se serait volontairement privée de nourriture, ce qui aurait accéléré sa mort. De ce constat du coroner qu'il a examiné, s'en est suivie une série de spéculations concernant les causes psychologiques ayant pu entraîner ce jeûne. Une hypothèse communément répandue à ce sujet est que Simone Veil souhaitait faire preuve de solidarité envers ses concitoyens en refusant de se nourrir plus que ce que permettaient alors les tickets de rationnement. Cependant, selon sa principale biographe, Simone Pétremant, des lettres du personnel du sanatorium dans lequel elle se trouvait lors de sa mort prouvent qu'elle a en fait essayé à diverses reprises de manger durant son hospitalisation. Selon elle, son jeûne aurait en fait simplement été une conséquence de la détérioration de son état de santé. Tous les livres ayant paru sous son nom ont été publiés après sa mort. Simone Veil est l'une des plus importantes philosophes de la première moitié du XXe siècle. Merci Chantal Delsol d'avoir partagé ce temps de réflexion autour de cet ouvrage, paru donc aux éditions du Cerf. Il s'agit de Simone Veil dans la collection des cahiers d'histoire de la philosophie sous votre direction, Chantal Delsol.
Merci beaucoup.